Il est 5h.
C'est une attaque contre la démocratie, c'est une attaque contre la liberté d'expression et c'est une attaque contre la souveraineté européenne.
Face à la triple attaque menée par la Biélorussie, selon les mots de la présidente de la Commission européenne, les dirigeants des 27 ont décidé de sanctions à chaud hier soir. Une femme tuée par son compagnon en Moselle alors qu'elle avait porté plainte contre lui pour des violences il y a plusieurs mois. Une plainte qui n'était pas remontée jusqu'à la justice. Et puis si comme un Français sur 10, vous avez commencé à écrire un livre pendant l'un des confinements de l'année écoulée, quelques conseils dans 10 minutes pour rédiger et envoyer votre manuscrit à une maison d'édition.
À suivre, votre journal des sports et notre pressing du matin. Et puis on sera sur la Côte d'Azur pour les doigts dans l'assiette avec notre artisan boulanger à Nice, Frédéric Roy. Très bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les sommets européens nous habituent parfois à des négociations interminables. Cette fois, il n'a fallu que 3 heures pour que 27 dirigeants se mettent d'accord, unis face à un ennemi commun, une menace en tout cas, la Biélorussie et son régime autoritaire, capable de forcer un avion de ligne à atterrir pour arrêter un opposant, le jeune Roman Protasevich, 26 ans.
Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Des sanctions rapides ont donc été décidées.
Oui, une fois n'est pas coutume, les 27 ont réussi à agir vite et tous ensemble. À l'image de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, tous avaient bien conscience qu'il ne fallait pas rater ce rendez-vous après la provocation inédite de Minsk.
C'est une attaque contre la démocratie, c'est une attaque contre la liberté d'expression et c'est une attaque contre la souveraineté européenne.
Le ciel européen est désormais interdit aux avions biélorusses, alors que la compagnie nationale Belavia desservait une vingtaine d'aéroports en Europe, dont Roissy. Les 27 déconseillent également à leur propre compagnie le survol du pays. C'est le cas de plus de 2000 vols chaque semaine. Les Européens vont aussi allonger la liste des membres du régime dont les avoirs en Europe sont gelés. Le président Loukachenko y figure déjà. Ils vont ajouter sur cette liste des entreprises publiques et privées. Enfin, ils veulent des sanctions qui ciblent l'économie du pays via ses exportations dans l'Union, comme les produits pétroliers. Mais elles interviendront dans un second temps, car la Commission européenne doit faire des propositions.
Isabelle Horry en ligne de Bruxelles pour Europe 1. Toujours à l'étranger, cette situation d'instabilité extrême au Mali. 9 mois après un coup d'État qui avait forcé le président Ibrahim Boubacar Keïta à quitter le pouvoir. Hier soir, c'est le président de transition et son premier ministre qui ont été arrêtés par les militaires. Condamnation unanime de la France, l'Union africaine ou encore les États-Unis.
Et en France, vaccination express à partir de demain pour tout un quartier de Bordeaux.
Oui, Bacalan, où 10 000 personnes peuvent s'inscrire dès aujourd'hui. Un cluster s'y est déclaré avec une mutation du Covid, en l'occurrence un dérivé du variant anglais. Après un grand dépistage ces derniers jours, place donc à la vaccination. Johanna Chabas, il a fallu monter l'opération très rapidement.
Oui, 19 000 doses ont été débloquées pour vacciner tout le quartier et ça doit être terminé en 3 semaines. La prise de rendez-vous commence tout à l'heure. À midi, les habitants pourront se rendre en pharmacie ou dans les centres de vaccination pour être vaccinés au Pfizer ou au Moderna. De quoi motiver même les plus sceptiques comme Kankou, 50 ans.
Je ne suis pas tout à fait pour le vaccin parce que j'avais peur de ce qu'il pouvait contenir. Et là, avec l'arrivée du variant dans le quartier, ça fait peur en fait, ça rigole plus. Je vais pouvoir bénéficier en priorité du vaccin, voilà, c'est mon devoir de citoyenne aussi, qui me pousse à le faire.
Certains, trop inquiets face à ce nouveau variant, n'ont pas voulu attendre et se sont précipités dans les centres de vaccination. Quand il reste des doses, les habitants de Bacalan peuvent les récupérer en montrant un simple justificatif de domicile, comme l'ont fait Élise et Benjamin.
C'est surtout, en fait, il y a 2 jours, quand on a commencé à en parler dans les médias, là on s'est inquiété, du coup on s'est dit on va accélérer la démarche.
On avait la volonté de se faire vacciner de toute façon, c'est plutôt une bonne chose de fait, quoi.
Pour accueillir tous les habitants et écouler ces milliers de doses, un centre de vaccination éphémère va être mise en place dans le quartier à partir de demain.
Johanna Chabas à Bordeaux pour Europe 1. On parlait du dépistage il y a un instant. Les résultats des tests vont évoluer dès lundi. Fini la précision du variant quand on est positif, Virginie Salmen.
Oui, c'était peut-être exotique, variant anglais, brésilien, nigérien, mais plus assez informatif. À partir de la semaine prochaine, les laboratoires d'analyse vont signaler non plus les origines, mais les mutations, c'est-à-dire les propriétés du virus qui vous infecte, plus contagieux ou plus résistant au vaccin. Le virologue Yannick Simonin de l'Université de Montpellier nous explique sous quelle forme apparaîtront désormais les résultats PCR.
Ça va être des numéros. On va avoir le numéro 484K, 484Q
est L452R. Ça peut paraître un petit peu barbare comme ça, mais en fait, ce sont des mutations qui sont les plus répandues pour les variants circulant actuellement. Ça va permettre aux spécialistes de savoir si ce sont des mutations qui favorisent la transmission, qui sont en train de prendre le dessus par rapport à d'autres, ou des mutations qui confèrent potentiellement un détournement du système immunitaire de ces variants.
Pour l'instant, 3 mutations différentes peuvent être indiquées, des informations quasi impossibles à lire pour les non-spécialistes, mais beaucoup plus précises pour les autorités sanitaires.
Virginie Salmen.
5h05 sur Europe 1, ce crime en pleine rue dans la nuit de dimanche à lundi. L'assassinat d'une femme de 22 ans par son compagnon, ça s'est passé à Haye, en Jean-Moselle.
Oui, lui, à 23 ans, il est en garde à vue pour meurtre sur conjoint. Marion Dubreuil, cette affaire suscite d'autant plus d'émotions que l'homme était déjà visé par une plainte de sa compagne.
Oui, à l'automne dernier, Stéphanie avait déposé plainte pour menace de mort contre son conjoint, un Kosovar de 23 ans, bien connu de la police pour des faits de violence. Mais sa plainte n'a jamais été traitée. Elle n'a même jamais dépassé les portes du commissariat, puisque d'après nos informations, elle n'a pas été signalée à la justice. La jeune femme de 22 ans, qui subissait des violences conjugales, avait eu une période de répit en novembre dernier, quand son compagnon a été condamné à de la prison ferme pour des délits routiers. Mais le 12 mai dernier, il a bénéficié d'un aménagement de peine sous bracelet électronique à domicile. Il est ainsi revenu vivre avec sa compagne et leur petite fille de 4 ans. Dans la nuit de dimanche à lundi, il a pourchassé Stéphanie dans la rue avant de lui asséner plusieurs coups de couteau et de la laisser pour morte sur le bitume. Il a arraché son bracelet électronique et s'est débarrassé du couteau dans sa fuite avant d'être rattrapé quelques heures plus tard par la police judiciaire.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
La politique, plainte contre plainte, Gérald Darmanin s'en prend à Audrey Pulvar qui contre-attaque.
Oui, enjeu. Les déclarations de celle qui est tête de liste des socialistes régionales en Ile-de-France sur la manifestation des policiers la semaine dernière, rassemblement où s'était rendu le ministre de l'Intérieur. Image glaçante, avait dit Audrey Pulvar. La plainte déposée par le ministre est vivement critiquée, notamment par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'exprime en exclusivité sur Europe 1.
Je trouve très inquiétant que le ministre de l'Intérieur rentre de plein pied dans une campagne électorale, dise qu'il porte plainte en diffamation contre une candidate, Audrey Pulvar, au régional, alors même que les faits sur lesquels il s'appuie sont loin d'être qualifiables de diffamation, et d'ailleurs une partie de ces faits serait même prescrite. Je pense que ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur de rentrer de cette façon sont là dans ce débat, de créer encore des fractures dans la société française. Je pense que le rôle d'un ministre, c'est d'abord aussi de représenter l'intérêt général du pays, non pas de polémiquer. Je crois que la situation du pays est quand même très très grave. Si on était nombreux de différentes familles politiques à tenter cela, peut-être que ça irait mieux dans le pays aussi.
Anne Hidalgo au micro Europe 1 d'Hélène Terzian. Une victoire pour les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris.
Après 23 mois de lutte, dont 8 de grève, ces salariés de l'entreprise sous-traitante STN ont désormais les mêmes droits et avantages que les salariés de l'entreprise Ibis.
Oui, elles dénonçaient le rythme effréné auquel elles sont soumises, nettoyage de chambre en seulement 15 minutes et non-paiement de leurs heures supplémentaires. Maud Descamps.
C'est un long combat dont elles sortent épuisées mais heureuses. Les 50 femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles ont obtenu gain de cause face à leur employeur, le sous-traitant STN. Une hausse de salaire, 100 euros de plus par mois, mais aussi des primes de panier repas et surtout une baisse de leur cadence de travail, comme le détaille Candy Tisiri de la CGT.
On a affaire quand même à une lutte historique de femmes de chambre qui mène un combat historique contre le groupe Accor et la société STN depuis 23 mois. Au moment du départ de cette mobilisation, les femmes de chambre avaient une cadence moyenne de 3 chambres et demie à l'heure. Elles passent aujourd'hui à 3 chambres à l'heure et d'une moyenne de 140 chambres à 80 chambres à contrôler. Donc voilà, c'est quand même assez significatif.
Les salariés au chômage partiel depuis le premier confinement en mars 2020 attendent désormais de connaître la date de leur reprise du travail au sein du deuxième plus grand Ibis de France et d'Europe, après celui de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1, un combat syndical assez marquant, 22 mois de lutte, ça mériterait sans doute finalement de se raconter dans un livre, pourquoi pas. Alors justement, ce matin, Lire, le magazine littéraire, publie un hors-série Écrire et se faire éditer. Ça vous travaille peut-être, vous avez eu un peu de temps libre pendant les différents confinements. Tous les bons conseils et les astuces pour que votre roman soit ouvert et animé par un éditeur, Nicolas Caro nous donne les grandes lignes.
D'abord, choisissez bien votre maison d'édition. Inutile d'envoyer un roman d'amour à un éditeur de polar. Et d'ailleurs, n'envoyez pas votre manuscrit seul dans une enveloppe Kraft. Joignez une lettre courte, efficace, sans fioritures pour dire qui vous êtes et présenter votre roman. Attention à l'orthographe, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la qualité d'un livre. Mais quand même, demandez à un ami de relire pour corriger les fautes, c'est plus propre. Et attention à la ponctuation, trop souvent sous-estimée et pourtant essentielle pour le rythme. Et puis, c'est bête à dire, mais travaillez votre style. Une bonne histoire ne suffit pas. Tous les manuscrits sont lus. Il y a même un service dédié chez chaque éditeur, mais ils veulent être surpris, saisis. Ils repèrent très vite un style pauvre ou l'écriture de quelqu'un qui veut écrire mais ne lit jamais. Dans ce cas-là, ils ne finissent même pas la première page. Faites-vous la main et la plume avec des concours de nouvelles et ou des ateliers d'écriture. La concurrence est rude. Selon une étude Harris Interactive, un Français sur 10 a entamé un roman pendant le premier confinement.
Ouais, il faut lire avant d'écrire.
Vous avez commencé le vôtre, François Geffrier ?
Pas du tout. J'ai rien à raconter.
Mais si, plein de choses dans le journal de 5h.
Des thrillers. Il est 5h11.
Merci François. Et le journal des sports, c'est avec Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Et malgré la pluie, le tournoi de Roland-Garros commence cette semaine, début des qualifications.
On essaye, en tout cas. On essaye de jouer entre les averses, le froid, le vent, la pluie, des conditions pas simples à gérer, assez similaires à celles de septembre dernier hein, pour l'édition 2020. La numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, est d'ailleurs arrivée à Paris. Hein, l'Australienne n'avait pas défendu son titre l'an passé en raison du Covid. Cette fois, elle est bien arrivée. Elle s'est entraînée sur le châtrier. Le toit a bien servi hier. Même chose pour la numéro 2 mondiale, Naomi Osaka. Alors, d'autres joueuses hein, privilégient, elles, un dernier tournoi pour se préparer. C'est le cas de Caroline Garcia, meilleure française l'an dernier, qui joue à Strasbourg devant du public. Et ça, ça se savoure.
Les gens, ça fait longtemps qu'ils ne voient plus de sport. Donc, on sent qu'ils sont vraiment au taquet et qu'ils viennent parce qu'ils ont vraiment envie d'être là. Et il y avait vraiment une très belle énergie positive. Et j'ai essayé de m'en servir au maximum, de l'emmagasiner. Parce qu'on ne sait pas comment ça sera dans les prochains tournois, etc. Et après, j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur le court et c'est le plus important.
Propos recueillis par Corinne Boulou. Et puis du côté des qualifications, exploit du jeune Arthur Fils, 16 ans, 1032e mondial. Et il a battu l'Australien Tomic en 3-7 hier. Tomic, un ex-pensionnaire du top 20. Belle performance aussi pour Loïs Boisson, la Française de 18 ans, qui découvre elle également Roland-Garros avec une victoire.
En football, Simon Rubin, la saison s'est donc achevée, même s'il reste encore deux matchs de barrage entre Nantes et Toulouse, et on parle déjà mercato.
Eh oui, la fameuse valse des entraîneurs de Ligue 1 qui débute. Alors, ils sont déjà plusieurs sur le marché. Rudy Garcia, qui est parti de Lyon, Michel Derzakarian, peut-être Christophe Galtier, le récent champion de France, ou encore Olivier Dalloglio. Il y a quelques années, il avait eu les honneurs du Guardian, le prestigieux journal anglais, qui en avait fait l'un des entraîneurs à suivre. Eh bien, le technicien brestois est annoncé du côté de Montpellier, mais pour le moment, rien n'est encore fait.
Moi, de mon côté, j'ai tout donné au Stade Brestois depuis deux saisons. Voilà. Je suis pas le seul, il y en a plein. Voilà, on sait qui on est un petit club avec nos petits moyens et on est fiers aujourd'hui de rester en Ligue 1. Vous serez au courant très rapidement, je pense. Voilà, il faut qu'on se pose, qu'on discute. Sur les derniers moments, sur les derniers jours, on s'est consacré totalement, que ce soit l'ensemble du club, du président jusqu'au intendant, joueur, etc., exclusivement à ce maintien.
Et propos recueillis par Julien Froment. Et puis on parlera d'un autre entraîneur à 6h, c'est Zinedine Zidane. Quid de son avenir du Real ? C'est toute la question. On termine avec un mot des JO. Les États-Unis ont recommandé hier à leurs ressortissants de ne pas se rendre au Japon. Alors ça ne concerne pas les athlètes, mais on rappelle hein, le Japon, pays hôte des Jeux Olympiques cet été et qui subit de plein fouet la pandémie de Covid-19.
Avec un état d'urgence sanitaire dans la capitale Tokyo. Merci beaucoup, Simon Rubin, à tout à l'heure. À 5h14 sur Europe 1, place aux courses. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Théo, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne. Et mon pari gagnant sera le 201 Norsen Ruler. Il n'a pas raté ses débuts en compétition le 4 mai à Chantilly, où il est venu s'imposer de peu, mais avec la manière face à une opposition d'un bon niveau. L'assouplissement des pistes de par son pédigré ne sera certainement pas un handicap et encore moins le profil sélectif de l'hippodrome de Compiègne. Dès lors, il devrait pouvoir conserver sans aucune difficulté son invincibilité. Notez bien, pour cet après-midi à Compiègne, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 1, Norsen Ruler.
Le pari gagnant, merci Thierry Léger. On vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Théo Manval.
L'essentiel à 5h15 est l'ONU qui appelle au calme et à la libération immédiate du président et du premier ministre de transition du Mali. Tous les deux ont été arrêtés hier soir et emmenés dans un camp militaire près de Bamako. Nouveau coup de force d'un groupe de hauts gradés maliens, 9 mois après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'Union européenne, elle ferme son espace aérien aux avions biélorusses et recommande aux compagnies aériennes de contourner la Biélorussie. Décision prise cette nuit après l'atterrissage forcé d'un vol Ryanair à Minsk dimanche et l'arrestation d'un opposant au président Loukachenko. Et puis la fête était belle, mais peut-être un peu imprudente. Après le titre de champion de France de foot décroché par Lille, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France recommande aux supporters venus faire la fête par milliers dans le centre-ville hier de faire un test Covid préventif pour pouvoir retracer d'éventuelles contaminations dans les jours qui viennent.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour notre pressing du jour à 5h16 avec Ombline Roche et Martin Lange. Et on commence comme chaque matin par la une de vos journaux et le détail du pass sanitaire pour cet été révélé par Aujourd'hui en France qui nous en fait le mode d'emploi avec le secrétaire d'État au numérique. Ce pass sanitaire entrera en vigueur le 9 juin pour les grands rassemblements. Le 9 juin qui est aussi la date de la prochaine étape du déconfinement avec notamment l'intérieur des restaurants. Le masque, lui, restera-t-il obligatoire ? S'interroge la Dépêche du Midi. Le gouvernement envisage d'assouplir la règle en extérieur, assure le journal. On posera la question au professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, qui sera mon invité à 6h40. Beaucoup de politique à la une de vos journaux ce matin et beaucoup d'Emmanuel Macron. Les jeunes, c'est son projet, titre le gratuit 20 minutes après les messages répétés du président à la jeunesse. Et cette question est-il vraiment entendu ? Le pyromane des régionales, ça c'est la une de Libération qui revient sur son projet de finir de dynamiter la gauche et de faire imploser la droite. Enfin, Macron, Le Pen, Bertrand, le match s'installe pour 2022. Ça, c'est la une du Figaro. La politique et le climat aussi en bonne place ce matin, avec Ouest France qui s'intéresse à la transition écologique qui se fait attendre dans le bâtiment. Bilan carbone catastrophique, nous dit Ouest France, pour le béton. Le populaire du centre, lui, alerte sur le coup de chaud qui guette la forêt du Limousin. Le Rhône au régime sec, s'alarme de son côté le Progrès à Lyon. Le fleuve aura perdu 30% de son débit d'ici 2050. Enfin, en football, les mots de Karim Benzema à la une de L'Équipe. Je me considérais toujours comme un bleu. Première interview de l'attaquant du Real Madrid, tout sourire depuis son rappel en sélection pour l'Euro par le sélectionneur Didier Deschamps. Les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin, Ombline Roche, on commence avec vous.
Et il vous est peut-être arrivé au travail de vous retrouver dans une situation inconfortable. Vous avez envie de féliciter un collègue que vous ne connaissez pas bien, par exemple pour la réussite d'un projet ou parce qu'il bosse bien tout simplement, mais vous êtes gêné, vous n'osez pas, vous avez peur que ça passe pour de la flagornerie ou de la drague, et bien désormais, il y a une application pour ça.
Il y a toujours une appli pour un problème, une application.
Exactement. Vous pouvez dire à une personne tout le bien que vous pensez de son travail anonymement. C'est dans Aujourd'hui en France, dans le cahier Vie de l'entreprise, a envoyé un message valorisant des compliments anonymes à ses voisins de bureau et sans contrepartie. Donc Théo, si tout à l'heure à 5h40, des journalistes de la rédaction pensent le plus grand bien de votre interview dans la Reine, le président d'une association qui défend la présence des ours dans les Pyrénées, eh bien ils pourront vous envoyer un petit mot sur une appli qui s'appelle Listen Léon et vous ne serez pas obligé de savoir qui vous a écrit ce mot.
Voilà, en toute discrétion.
Oui, ça vous fera juste du bien.
Voilà, ça me fera plaisir. Allez-y.
Ça vous reboostera sans doute. Si vous, Martin, un matin, vous avez le blues, eh bien, relisez les messages que vous avez reçus, vos Léons, qui résument vos points forts, et ça ira ensuite beaucoup mieux. En fait, cette application a été lancée par, je cite les fondateurs, pour réintroduire le pouvoir de la gratitude dans l'entreprise, car c'est bien connu, la gentillesse va de pair avec la motivation. Et à l'inverse, le manque de reconnaissance est la principale source de mal-être au bureau. Et là, vous vous dites, c'est un bon moyen pour envoyer une vacherie de manière anonyme aux copains d'à côté. Eh bien non,
C'est mal de nous connaître.
Une intelligence artificielle s'assure de la bienveillance de votre missive. Donc si vous mettez une méchanceté, vous serez retoqué. Voilà.
D'accord.
Le message partira pas.
Les gros mots sont détectés.
Mm-hmm. Vous pouvez même être guidé avec des propositions de messages. Oh, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Il y a une liste aussi avec des qualités à cocher comme créativité, comme travail d'équipe.
On vous aide à écrire des compliments.
Oh, mais ouais, c'est chouette. Hein. Listen Léon est une start-up qui a été créée à Aix-en-Provence. Elle compte une vingtaine de clients comme Airbus, Pôle emploi, comme le syndicat Force Ouvrière.
Tiens donc.
Arrêtons d'attendre le pot de départ pour dire à celui qui s'en va à quel point vous avez apprécié de travailler avec lui.
Ça, c'est vrai.
C'est à lire dans Aujourd'hui en France.
C'était une très belle trouvaille. Merci Ombline, bravo pour votre travail. Moi, je préfère les compliments en direct. Voilà, merci beaucoup. Merci. En tout cas, on note cette appli. Donc, ça s'appelle Listen Léon, c'est ça ?
Il y en a plein d'autres. Il y en a eu.
Voilà, mais faites des compliments
super
dans
like,
la vraie vie. Coco
Worker.
Voilà, et n'attendez pas le pot de départ, ça, c'est tout à fait vrai. Mm-hmm. Face à un supermarché, un village super fâché. Ça, c'est un article de Libération dont je vous parle, moi, ce matin. Article qui nous raconte comment Lidl, l'enseigne allemande de Hard Discount, essaie de s'implanter depuis 4 ans maintenant dans une petite commune de la Drôme, près de Cray, commune qui se déchire sur la question. Il y a 2500 habitants à Aoust-sur-Scie. Et vous allez comprendre que l'opposition entre les anciens et ceux qu'on appelle les néo-ruraux est en train de se cristalliser autour de ce projet de supermarché. Depuis 2017, donc, Lidl dépose de manière répétée des projets de rachat et de permis de construire sur un terrain qui est à vendre. Certains élus et habitants sont pour. Une grande partie de la population d'Aoust ne roule pas sur l'or, d'autant plus avec la crise liée à la pandémie. Mais voilà, avant le conseil municipal, raconte Libération, pétitionnaires et manifestants anti-Lidl font monter la pression au point de pousser les élus à repousser leur vote. Depuis 5 ans, on voit arriver de plus en plus de bobos, explique assermenté un habitant qui pointe la fracture entre ces Aoustois d'avant et ceux d'aujourd'hui. L'arrivée de ces néo-ruraux attirés par la qualité de vie, la proximité du TGV, écrit Libération, s'est en effet accompagnée de l'ouverture de nouveaux commerces et d'une transformation. L'ancien bourg désargenté a désormais, vous savez, son épicerie associative, sa boulangerie bio et sa clientèle au pouvoir d'achat certain. Pour qui voir sortir de terre un Lidl et un parking pour 100 voitures juste à côté n'était pas franchement dans le projet retour aux sources dans le sud de la Drôme. Sauf que la population de départ d'Aoust-sur-Scie, elle est toujours là.
Elle en a besoin.
Et que résume un ancien, tout le monde ici n'a pas les moyens de s'acheter un pain bio à 5 euros. Le maire anti-Lidl est accusé de soutenir les choums, comprenez les nouveaux babacool et leur pétition contre le magasin.
Les choums.
Et la situation est dans une telle impasse, les choums, oui. Au dernier conseil municipal sur le projet, les deux votes successifs se sont soldés par une égalité nette, 11 voix partout. Plus un vote blanc, symbole de ces deux mondes parallèles qui vivent côte à côte mais qui n'arrivent pas à se parler, à tel point que Lidl propose d'organiser un référendum dans le village pour sortir de l'impasse face au supermarché. Un village super fâché, c'est donc à lire dans Libération.
C'est vachement bien ce que vous faites, Théo.
Formidable.
C'est formidable.
Voilà, on passe pas par l'application sur Europe 1, on se dit tout le bien qu'on pense les uns des autres en direct. Martin Lange, je n'en doute pas, cette chronique sera fabuleuse.
Ah oui, ça sera extraordinaire.
Ce matin, je vous emmène sur une île au trésor, Ombline, Théo. Oak Island, un petite île de 57 hectares au sud-est du Canada, pas très loin du Québec francophone. Allez voir sur Google Maps, la description devrait vous faire sourire. Propriété privée cachant un possible trésor. Alors la légende date de la fin du XVIIIe siècle, en plein âge d'or de la piraterie, une bande d'ados découvre un trou manifestement creusé par l'homme, comme si quelque chose y avait été enterré. Il lui donne même un nom, le Money Pit, le puits d'argent. Depuis cette découverte, des dizaines d'expéditions ont été lancées. Certaines participent à la légende, comme en 1804, comme des explorateurs découvrent des fibres de noix de coco. Oui. Pas commun sur une île canadienne.
Effectivement.
Mais ces recherches se sont surtout avérées tragiques. 6 morts et une pierre tombale qui fait office d'accueil sur l'île, en mémoire de ceux qui ont perdu la vie en poursuivant la quête d'Oak Island. Pourtant, ces mésaventures n'ont jamais découragé les aventuriers. En gré des changements de propriétaires et des avancées technologiques, les fouilles durent maintenant depuis plus de 200 ans.
Mais si on n'a rien trouvé d'autre que des fibres de noix de coco, Martin, il serait peut-être temps de s'arrêter, non ?
Peut-être, mais Oak Island sait entretenir le mystère en délivrant occasionnellement quelques indices, une pièce d'or par-ci, parchemin par-là, de quoi alimenter la curiosité des chercheurs d'or, mais jamais de quoi les rassasier.
À tel point que la légende est devenu un business.
Exactement, les derniers propriétaires de l'île, les frères Lagina, ont lancé une série sur la chaîne History pour suivre leur quête, baptisée The Curse of Oak Island, la malédiction d'Oak Island. Elle fait référence à une légende tenace sur l'île. Il faudrait que 7 hommes meurent avant de découvrir le magot.
C'est du Agatha Christie presque.
Exactement. Pas de chance, on est donc à 6, mais les frères Lagina ont peut-être compris qu'entretenir le mythe leur apporterait plus d'argent que de retrouver cet hypothétique trésor. L'île qui excite les chasseurs de trésors depuis plus de 200 ans, c'est à lire sur Slate.
Bravo Martin, et merci pour ce conseil lecture.
Je vous en prie.
Merci Martin, merci Ombline, c'était super. On vous retrouve tout à l'heure.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
Il doit rigoler en nous écoutant, Frédéric Roy, qu'on retrouve depuis Nice pour Les Doigts dans l'Assiette. Bonjour Frédéric.
Bonjour Théo, bonjour à tous les auditeurs.
Notre boulanger sur la Côte d'Azur, comment ça va chez vous ce matin ?
Bah écoute, ça va, il fait bon. Tiens, là, j'ai mon livreur de farine qui est en train de déposer sa farine, donc je suis dehors, il fait bon.
Elle vient d'où votre farine, tiens d'ailleurs, avant qu'on démarre ?
Alors, elle vient de Cluny.
D'accord, dans le centre de la France, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, en Bourgogne.
Une bonne nouvelle pour vous, Frédéric, la réouverture des restaurants avec le déconfinement la semaine dernière, ça veut dire le retour de clients assez important pour vous.
Oui, disons que c'est une part importante de notre chiffre d'affaires qui est parti pendant les 8 mois de fermeture. Mmh. Donc là, avec la réouverture, ça va remettre un peu de beurre dans les épinards.
Parce que vous avez du coup, comme client, hein, que vous fournissez des hôtels ou des restaurants comme le Negresco ou encore le Blue Beach, hein, par exemple, c'est ça?
Absolument. Donc le Negresco, ça va faire 1 an qu'on le livre. Donc ils nous prennent tout ce qui est croissant, pain au chocolat. Mmh. Et depuis la réouverture, croissant à la lavande,
votre
les
spécialité.
Croissants bicolores chocolat, ouais. Et ceux à la framboise.
Ça représente quoi, Frédéric, en termes de pourcentage de vos ventes ou de chiffre d'affaires? C'est vraiment très important. C'est oui, ces commandes qui sont plus grosses que pour les particuliers.
Mes livraisons, puisque j'en ai deux principaux que je livre. Donc, comme vous avez dit, le Negresco et la plage Le Blue Beach, on va dire, ça représente 10% du chiffre d'affaires.
Donc oui, c'est pas négligeable. Qu'est-ce que vous leur fournissez, du coup, viennoiserie, des baguettes? Il y a des choses que vous faites spécialement pour eux?
Ben, pour le Negresco, on travaille sur des projets, des produits qu'on fera éventuellement que pour eux.
D'accord. Comme quoi, par exemple?
Ben justement, si c'est pas indiscret. En ce moment, je travaille sur des recettes, donc je ne vais pas vous le dire tout de suite à la radio.
Vous allez leur laisser la primeur, effectivement. Mais j'ai bien noté que vous leur livriez vos fameux croissants à la lavande.
Absolument.
Ça implique un travail particulier, quand même, différent de clients lambda, entre guillemets, quand on doit fournir un restaurant, notamment sur les quantités, peut-être?
Alors, en général, j'ai qu'une seule façon de travailler. Mais c'est vrai que quand on livre les viennoiseries à 6h30 le matin en Negresco, on n'a pas le droit à l'erreur.
Bien sûr. La dernière fois qu'on s'était parlé, il y a un mois environ, Frédéric Roy, vous veniez aussi de lancer une page Facebook, la nouvelle connexion, pour faire découvrir les coulisses de vos métiers avec d'autres artisans aux internautes. Est-ce que ça peut vous aider, ça, par exemple, à avoir des clients comme ceux-ci, pour lesquels vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais qui vous prennent beaucoup de commandes?
Ouais, bah ça arrive. De toute façon, la communication au jour d'aujourd'hui est une part importante de notre travail, hein, parce que faire des choses artisanalement, tout fait maison, c'est bien, mais le faire savoir, c'est d'autant mieux.
Et justement, alors, vous l'avez lancé il y a un mois, cette page, ça a pris un petit peu?
Ouais, ça commence d'avoir des retours de gens, hein, parce que on peut pas être tous les jours, 24 heures sur 24, à mettre des photos ou des vidéos.
Oui,
donc les gens sont assez demandeurs. Mais on avance.
Et ça tourne, hein, puisque vous êtes plusieurs couples d'artisans, avec notamment dans l'Ouest, je crois, de mémoire.
Oui, dans le Sud-Ouest, j'ai mon ami Pascal. Et plus dans le centre de la France, on a Sabine Coque. Et là, on commence à avoir d'autres artisans qui nous rejoignent.
Quel retour vous avez alors de ces vidéos où vous expliquez un peu votre rythme de vie, votre travail?
C'est positif, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'émissions à la télé dans lesquelles on parle des boulangers. Mais notre vie vraiment au quotidien, on la partage jamais habituellement.
C'est ça, les gens se rendent pas forcément compte.
Et oui, on a un travail dur, difficile, long, mais agréable à faire, puisque c'est celui qu'on a choisi.
Et c'est une passion, bien souvent. Vous parliez tout à l'heure, évidemment, du coût que ça a pu porter, hein, aux artisans comme vous, la fermeture des restaurants, des hôtels aussi, pendant le confinement. Comment se profile votre été? J'imagine que du coup, pour rattraper, on prend pas forcément de vacances.
Non, bah, de toute façon, nous, on n'en prend jamais l'été. Moi, je ferme 2 fois 10 jours par an. C'est aux périodes les plus creuses. Généralement, c'est fin septembre et fin mars.
D'accord. Bon, eh ben, on vous souhaite en tout cas un très bel été, Frédéric Roy. Tiens, vous n'avez pas servi Jean Castex, qui est venu à Nice par le train de nuit en fin de semaine dernière. Il n'est pas venu déguster des croissants chez vous par hasard?
Non, mais j'aurais bien aimé qu'il vienne me voir, ou même qu'il me reçoive à Paris, parce qu'on en a des choses à lui dire.
Eh ben écoutez, peut-être qu'il nous écoute à 5h29, je suis sûr que c'est un lève tôt et en tout cas si c'est pas encore fait, le message sera passé. Merci beaucoup Frédéric, à bientôt.
Merci beaucoup Théo, à bientôt.
Laurent Cabrol, un point sur la météo avant le journal de 5h30 et décidément on ne s'en sort pas, hein, de ce printemps capricieux.
Bah oui, c'est encore un temps très, très incertain, très contrasté, avec des averses, des giboulées, des orages. Oh, les orages sont pas très nombreux quand même, hein, mais enfin il y en aura. Et puis, parfois des éclaircies quand même. Hein. Alors les éclaircies vont se déployer, commençons par les bonnes nouvelles, sur les régions de l'Est dans l'après-midi, sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, mais aussi dans l'Ouest, Poitou-Charentes, dans le Sud-Ouest. Nous aurons des éclaircies en deuxième partie de journée. Et puis sur le bassin méditerranéen, il y a du vent, donc le ciel est dégagé. Donc vous voyez que de part et d'autre de la France, ça se dégage. si je puis dire, mais partout ailleurs, c'est-à-dire dans le centre, le nord, la région parisienne, etc., nous conservons ce régime d'alternance nuages éclaircies averses, et les averses étant nombreuses. Les températures maximales maintenant entre 14 et 19 degrés seulement. Alors 19 à Lyon, 14 degrés du côté de Charleville-Mézières, 16 à Paris et 17 à Bourges. Vous voyez, ce sont des températures bien fraîches pour la saison.
Effectivement, merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Et merci à vous de vous réveiller avec Europe 1. Marion Calais s'installe pour un nouveau journal. Bonjour Marion.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Nous, on a pas mal de meublés effectivement en location actuellement, qui pour l'instant trouvent difficilement preneur. Sur l'offre locative qu'on a en meublé, j'ai contacté les propriétaires. On a effectivement baissé les prix pour relancer un peu la machine.
Baisser les loyers face à l'afflux de logements qui ne peuvent plus être loués aux touristes, démeublés en nombre désormais sur le marché, phénomène constaté dans de nombreuses villes en France. Dans ce journal aussi, l'Institut Pasteur qui laisse entrevoir un peu de sérénité pour l'été, la stratégie de la terreur du président Loukachenko en Biélorussie et la demande d'indemnisation pour préjudice médiatique de la famille d'Alexia Daval.
Dans 10 minutes, cela faisait près de 40 ans qu'on n'avait pas vu autant d'ours en France, dans les Pyrénées, plus nombreux et établis sur un territoire de plus en plus vaste. Alors sont-ils sortis d'affaires? Quelle cohabitation aussi avec les éleveurs? On en parle avec Alain Rennes, directeur de l'association Pays de l'Ours, mon invité dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une conséquence de la crise sanitaire et elle a plutôt de quoi donner le sourire. De Nantes à Annecy, en passant par Paris ou Bordeaux, les loyers s'affichent à la baisse.
Moins 4,5% à Paris, moins 6,7% à Bordeaux. Une tendance qui touche principalement les petits appartements meublés loués jusque-là sur les plateformes comme Airbnb. Stéphane Place, vous êtes le correspondant européen à Bordeaux où l'offre pour ce type d'appartement est du coup devenue pléthorique, hein, faute de touristes.
Bien, par exemple, dans cette agence immobilière du quartier de la Victoire, ici à Bordeaux, Kevin a, comme ses confrères, enregistré une hausse très nette de cette offre spécifique sur le marché local des meublés, conséquence directe de la crise sanitaire.
L'explosion, elle s'est vraiment passée cet hiver, effectivement, avec tous ces logements Airbnb qui n'étaient plus loués, vu qu'il n'y avait plus de vacanciers à Bordeaux. Donc, cette offre s'est reportée sur le marché locatif traditionnel. Le marché était inondé, surtout en studio T2. Donc, les appartements que nous avions en location, on a dû passer des prix de 795 €, par exemple, pour un T2 meublé, à 640 pour pouvoir le louer.
D'autant que l'offre demeure toujours plus importante que la demande. Thomas Rabot, directeur location d'Auralia Bordeaux.
Nous, on a pas mal de meublés effectivement en location actuellement, qui pour l'instant trouvent difficilement preneur, lié à la crise sanitaire. C'est des logements qui sont quand même assez typés étudiants de base, ou de personnes qui peuvent être mutées, et que ce soit les étudiants qui sont pas là ou peu là, ou les personnes mutées qui, dans leurs entreprises, les choses sont un peu gelées. C'est des clients qu'on n'a pas forcément. Donc sur l'offre locative qu'on a en meublé, j'ai contacté les propriétaires. On a effectivement baissé les prix pour relancer un peu la machine.
Situation conjoncturelle, évidemment. Évidemment, personne ne peut prédire si elle va se prolonger ou pas. Tout dépendra de la reprise d'activité dans les semaines et mois à venir.
Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Une éventuelle reprise de l'activité touristique qui dépendra en grande partie évidemment de la situation sanitaire. Et le tableau prospectif qu'adressait hier l'Institut Pasteur est assez réjouissant, évoquant des conditions favorables pour l'été. Est-ce à dire, Victor Delande, que l'on peut être serein pour les vacances à venir?
Oui, tous les signaux sont clairement au vert. La décrue de l'épidémie va même au-delà des espérances des spécialistes, c'est dire, en un peu plus d'un mois, le nombre d'hospitalisations quotidiennes est passé de près de 2000 à 700. Le coronavirus subit très probablement une saisonnalité, me confie un épidémiologiste, et en ce moment, ça nous est très favorable. Si on continue à ce rythme, on pourrait même avoir moins de 5000 nouveaux cas par jour d'ici le 10 juin, un niveau qui permet de mieux remonter et donc de mieux contenir les chaînes de contamination. Enfin, autre signal très encourageant, la campagne de vaccination progresse très fortement. On est passé de 350 000 à 500 000 doses administrées chaque jour en moyenne. Au 1er juillet, plus d'une personne sur deux aura reçu au moins une injection. Et avec l'arrivée du pass sanitaire, les Français l'ont parfaitement compris. S'ils veulent passer un été tranquille, sans Covid ou presque, ça passe d'abord par la vaccination.
Victor Delande et ses perspectives pour l'été, la discipline qu'il va falloir garder. On y revient plus en longueur avec mon invité à 6h40, le professeur Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur. L'Europe l'avait promis, Marion Calais, les 27 haussent le ton après le détournement d'un avion civil par le pouvoir biélorusse avant-hier.
Réunis en sommet, les dirigeants européens ont décidé de fermer leur espace aérien aux appareils biélorusses et recommandé aux compagnies européennes d'éviter de survoler le pays. De nouvelles sanctions seront également prises à l'encontre du régime d'Alexandre Loukachenko.
Le président biélorusse contestait depuis près d'un an et sa réélection. Son coup de force contre l'opposant Roman Protasevich et sa compagne fait craindre le pire à ses proches, eux aussi exilés comme Sabina, on l'écoute, installée en Lituanie.
Of course I am.
Bien sûr que j'ai peur, parce que je sais que la police me cherche en ce moment en Biélorussie. Je ne peux pas y aller parce que je suis menacée là-bas. Et maintenant, je ne me sens en sécurité nulle part. J'ai l'impression de ne plus pouvoir me déplacer. C'est effrayant.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris l'arrestation de Roman Protasevich ?
Ça m'a choquée. Roman pensait qu'il était en sécurité, protégé par la loi lituanienne et le droit international dans cet avion. Il ne faut pas oublier qu'il a été tout simplement kidnappé. Comme de nombreuses personnes en Biélorussie ces derniers mois. C'est terrible. Je n'ai pas eu de nouvelles de Roman et de sa compagne depuis leur arrestation. On sait qu'ils sont tous les deux détenus à Minsk. Ça risque de mal finir. Nous n'avons que quelques jours pour agir.
Alors Didier François, vous êtes notre spécialiste des questions internationales. Pourquoi le régime biélorusse en est-il venu à détourner un avion de ligne pour arrêter un simple opposant?
Alors en fait, la stratégie d'Alexandre Loukachenko est malheureusement bien résumée dans le témoignage de la jeune femme que vous venez d'entendre. Il s'agit de terroriser tous ses opposants potentiels en organisant la répression la plus cynique et la plus spectaculaire contre ses adversaires les plus connus ou les plus en vue, l'idée étant de leur démontrer que rien ni personne ne pourra jamais les protéger. C'est exactement ce que fait Vladimir Poutine, qui est d'ailleurs le plus grand défenseur du dictateur Bélarus, lorsqu'il empoisonne d'abord Alexei Navalny, puis qu'il le jette en prison dès son retour en Russie, au prétexte qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire pendant sa convalescence. Rendez-vous compte que non seulement Alexandre Loukachenko a donné l'ordre personnellement à ses chasseurs d'intercepter l'avion civil d'une compagnie européenne effectuant un vol régulier dans un couloir aérien, tout ce qu'il y a de plus officiel, et cela sous un prétexte parfaitement fallacieux, mais qu'en plus, il l'a publiquement revendiqué par la voix de son porte-parole. C'est donc un défi de taille lancé à la communauté internationale, à commencer par l'Union européenne, qui est directement visée par cette provocation.
Et pendant ce temps, en Biélorussie, les médias d'État ont diffusé une vidéo qui ressemble fort à la vidéo d'un otage, une sorte de preuve de vie dans laquelle Roman Protasevich dit être bien traité et explique être passé aux aveux concernant l'organisation, je cite, de troubles massifs.
Il est 5h37, 6 mois après la condamnation de Jonathan Daval pour le meurtre de sa femme Alexia en octobre 2017. Retour devant la justice pour cette affaire éminemment médiatique.
Dossier examiné cette fois au civil sur le volet dommages et intérêts. Arthur Mbaché, la famille de la victime réclame 800 000 euros au titre, justement, du préjudice médiatique.
En tenant compte, entre autres, de la médiatisation de l'affaire, ce qui est très hypocrite de la part de la famille d'Alexia, dit l'avocat de Jonathan Daval, Randall Schwerdorfer.
On ne peut pas se prévaloir d'un préjudice médiatique à partir du moment où on a volontairement participé à une multitude d'émissions, y compris pendant le procès. Il y a cette espèce d'hypocrisie latente de dire « je n'avais pas le choix, j'étais obligé de me montrer, j'étais obligé de m'exprimer ». Je veux dire, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Alors aujourd'hui, il ne faut pas venir s'en plaindre.
Ce préjudice lié à la médiatisation, c'est parfaitement légitime pour Jean-Hubert Portejoie, qui défend Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia.
Le seul responsable, c'est Jonathan Daval. Lorsqu'il invente ce scénario de la disparition d'une joggeuse, souvenez-vous de ce comportement lors des obsèques d'Alexia, hurlant de douleur au pied du cercueil, cette médiatisation, Jonathan Daval l'a nourrie et les parents d'Alexia ont dû se défendre.
En plus des parents, de la sœur et du beau-frère d'Alexia, des indemnités sont aussi réclamées par une dizaine d'oncles et tantes de la victime.
Une précision signée Arthur Mbaché pour Europe 1. Un féminicide et une nouvelle fois les mêmes questions après le meurtre d'une jeune femme de 22 ans par son compagnon à Hayange en Moselle. La victime avait porté plainte à l'automne, mais la justice n'en avait pas été informée.
La justice toujours à l'étranger, cette fois-ci avec la fin d'une bataille épique aux États-Unis.
Procès entre deux géants, Apple contre Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite, la marque à la pomme attaquée pour des pratiques jugées abusives sur le magasin d'applications. Clément Le Saffre, le jugement sera rendu en août prochain, mais ces 3 semaines d'audience ont-elles déjà donné des indications sur la décision à venir ?
Eh bien, difficile à dire. Un temps, les deux parties se sont rendues coup pour coup au cours de ce procès. Ça avait plutôt mal commencé pour Epic Games, forcé de révéler des documents financiers pour étayer ses arguments. On a donc appris que Fortnite lui avait rapporté 9 milliards de dollars en 2 ans, de quoi faire voler en éclats l'image de David contre Goliath. Mais voilà, Apple, tout géant qu'il soit, a aussi tremblé lors des derniers jours du procès. Tim Cook, appelé à la barre pour défendre le modèle économique de l'App Store, a été malmené par la juge. Yvonne Rogers a d'abord qualifié de disproportionné le système de commission imposé par Apple sur les transactions dans les applications, puis s'appuyant sur une étude selon laquelle 40% des développeurs ne sont pas satisfaits par l'App Store, elle a estimé qu'une mise en concurrence pousserait peut-être Apple à s'améliorer. Des prises de position qui font douter de l'issue du procès. Si le géant américain venait à perdre, c'est tout le marché des applications qui serait chamboulé. Moins de contrôle des grandes plateformes. Pour nous, cela rendrait les applications mobiles moins chères, plus nombreuses, mais aussi moins sécurisées.
Précision signée Clément Le Saffre pour Europe 1. Et puis à la faillite, des retrouvailles avec ses camarades internationaux à Clairefontaine. L'interview de Karim Benzema dans l'équipe ce matin. L'attaquant du Real Madrid dit sa fierté de réintégrer le groupe après 6 ans d'absence.
Merci, c'était le journal de Marion Calais. Il est 5h40. À l'heure de retrouver Thierry Léger pour le Quintet.
C'est sur l'hippodrome de Compiègne que se disputera ce quintet, un handicap réservé à la jeune génération des poulains et pouliches âgés de 3 ans. Et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Serge Sparklotte, le numéro 8, prometteur 5e le 26 avril à Chantilly pour sa première tentative dans un handicap. Après avoir longtemps musardé en queue de peloton, il est revenu de loin finir dans une action qui me permet de vous affirmer qu'il devrait pouvoir, dès cet après-midi, s'imposer. Son principal rival sera Momarassa, le numéro 2, arrivé second ce jour-là, mais aussi Riponette, le numéro 13, une pouliche bien née, façonnée avec patience par le Deauvillais Stéphane Vatel, qui n'aime jamais courir ce genre de course sans avoir une réelle chance. Ensuite, je vous conseille les numéros 4, Mystery, facile lauréat en dernier lieu à Lyon-Paris, 15, Kaliska, pour sa régularité, et 3, Took the Mist, que je sais estimer par son entourage. Enfin, les numéros 1, Electroscope, et 14, Chica Energica, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 2, 13, 4, 15, 3, As et 14.
C'est bien noté, merci Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur Europe1.fr.
Théo Manval sur Europe 1.
Et à 5h42, j'accueille à présent le premier invité de ce 5-7. Bonjour Alain Rennes.
Bonjour.
Vous dirigez l'association Pays de l'Ours Adette dans les Pyrénées, association qui soutient le développement de la présence de l'ours dans le massif. On vient de fêter, entre guillemets, les 25 ans des premières réintroductions qui ont eu lieu dans les années 90. Avec une bonne nouvelle pour vous, Alain Rennes, 3 oursons viennent d'être aperçus dans le Béarn. C'est une première depuis 50 ans.
C'est ça. La bonne nouvelle surtout, c'est qu'ils sont dans cette partie des Pyrénées, dans le Béarn, où il n'y avait plus de naissance depuis longtemps, où on a peu d'ours et où il était important effectivement que la recolonisation, que la restauration de la population commence. Et 2 femelles ont été lâchées, donc c'était à l'automne 2018. Et une de ces 2 femelles vient d'avoir 3 oursons, ce qui est effectivement une très bonne nouvelle.
La femelle Sorita qui vient de Slovénie, hein, c'est bien ça?
C'est bien ça. Comme tous les ours qu'on a lâchés dans les Pyrénées, ils viennent tous de Slovénie, qui sont des ours qui sont exactement les mêmes que ceux des Pyrénées et qui s'y adaptent très bien d'ailleurs.
On a presque retrouvé à Alain Rennes le niveau de population des années 50, hein, désormais 64 ours dans les Pyrénées. Je rappelle que c'était tombé à 5 hein, dans les années 90. Est-ce qu'avec ces oursons supplémentaires et ces 64 ours désormais, donc c'est une population qui est viable désormais?
Alors, pas encore viable, malheureusement, mais elle se porte déjà beaucoup mieux, effectivement, puisque 5 est le minimum, hein, on était vraiment au seuil de la disparition. Pour que la population soit viable, il faudrait qu'il y ait, alors c'est un petit peu compliqué, mais il faudrait une 50aine d'individus reproducteurs, donc adultes, et qui participent à la reproduction, et ouais, avec une bonne diversité génétique.
Alors, malheureusement, parce que là, c'est la consanguinité qui guette.
C'est ça, on n'a pas les 50 individus reproducteurs et on n'a pas non plus la diversité génétique parce que tous procèdent d'un petit nombre d'ours qui a été lâché depuis 25 ans effectivement et qui se reproduisent entre eux avec cette consanguinité qui va augmenter et qui risque de poser des problèmes.
Alors un nombre d'ours quand même multiplié par 10, hein, je le disais depuis 1996, on sait l'opposition de certains éleveurs ovins Alain Rennes au développement de ces populations d'ours dans les Pyrénées. Est-ce que ces 3 naissances, elles font parler autour de vous ?
Alors, elles font parler surtout positivement pour l'instant, puisque c'est effectivement une première depuis longtemps dans cette partie des Pyrénées. Après, que des personnes opposées n'en soient pas ravies, on peut le comprendre. Bon, il faut accompagner les personnes qui pourraient être impactées, évidemment, par cette restauration de population, mais tout ça est possible. On a vécu avec pendant très longtemps, on doit pouvoir maintenant, avec les moyens qu'on a, pouvoir faire avec sans problème.
Vous parliez de consolidation de la population, ces 3 oursons, il n'est pas établi qu'ils survivent, hein, non plus, Alain Rennes. Il y a une mortalité infantile assez importante chez ces espèces.
Alors oui, effectivement, hein, faut savoir que les oursons sont tout petits. Hein. Un ourson à la naissance, c'est 300 grammes, c'est 10 fois moins qu'un bébé. Certes, c'est en plein hiver dans la tanière maternelle. Quand ils sortent vers le mois d'avril, c'est plutôt vers 3 kilos. Et maintenant, c'est des animaux qui font 4-5 kilos, mais ça reste tout petit quand même pour se débrouiller dans la montagne, avec leur mère, certes. Mais la mortalité, elle est de l'ordre de 25-30%. Ça peut ponctuellement être plus, effectivement. Donc rien ne dit malheureusement que ces trois oursons arriveront à terre.
Elle est liée à quoi cette mortalité justement pour des animaux qui font, si je reprends les proportions que vous donniez, c'est quoi la taille d'un petit chien aujourd'hui?
Les causes de mortalité, c'est toutes les mauvaises raisons qu'on peut avoir de mourir en milieu naturel et a fortiori dans la montagne qui est un milieu risqué. C'est faim, froid, maladie, prédation, accident, toutes choses là qui peuvent, sur les animaux encore très fragiles, les impacter.
On parlait des éleveurs tout à l'heure, la coexistence n'est pas toujours facile. Hein. Il faut rappeler aussi à Alain Rennes qu'on est passé ces dernières années d'environ 200 brebis tuées par an à plus du double.
Oui, effectivement. Bon, après, il y a plusieurs choses. Hein. D'une part, le nombre d'ours a augmenté, et d'autre part, la zone de présence de l'ours a augmenté aussi. Donc, avec des secteurs nouvellement utilisés par l'ours et où il n'y a pas toujours les moyens de protection des troupeaux. Après, il faut aussi bien mesurer les choses. C'est que s'il y a quelques centaines de brebis qui sont tuées par les ours, et c'est bien regrettable, on préférerait qu'il y en ait beaucoup moins, environ 500, il y a chaque année à peu près 25 000 brebis qui meurent l'été en montagne dans les Pyrénées, de tout un tas de causes. Donc ça reste une cause de mortalité qui est quand même mineure, même si certains préféreraient l'éviter, et on le comprend.
Est-ce que vous concevez quand même que certains puissent dire il y a trop d'ours aujourd'hui dans les Pyrénées?
Ah ben, il y a des personnes pour qui un ours, c'est déjà trop. Hein. Donc, effectivement, ceux qui sont opposés à leur présence penseront toujours, effectivement, qu'il y en a trop. Il y a des enjeux économiques, il y a aussi des enjeux environnementaux. Je pense que maintenant, on est à une période où on prend conscience de l'importance et de la valeur de la biodiversité et de l'environnement de manière générale. Il faut faire les efforts, chacun et la collectivité, pour accompagner ces personnes de manière à ce que la cohabitation se passe le mieux possible.
Quels sont les moyens, justement, qui sont mis en place pour assurer cette cohabitation, pour protéger les troupeaux des ours qui pourraient s'approcher?
Alors, les moyens principaux consistent déjà à payer donc des bergers qui vont rester avec le troupeau pendant tout l'été en montagne. Donc, c'est à peu près 500 emplois de bergers qui sont financés par l'État chaque année dans ce but. Et puis ensuite, c'est leur donner des moyens de protection, les troupeaux. Donc, c'est principalement donc des parcs pour regrouper les troupeaux la nuit, idéalement électrifiés. Et puis aussi, des chiens de protection, hein, les montagnes des Pyrénées, ou Patou, comme on les appelle ici, qui sont les gros chiens blancs, hein, celui de Belle et Sébastien, par exemple, etc., qui sont des chiens qui sont dédiés, effectivement, à la protection des troupeaux, et qui sont très efficaces quand ils sont en quantité suffisante et bien éduqués.
Il y a aussi des mesures qui concernent directement les ours. Je crois que le préfet de Haute-Garonne vient de demander à ce qu'on remette un collier GPS à un ours dit à problème, un mâle réintroduit depuis l'Espagne qui s'appelle Goyat.
Alors, il y a effectivement un ours qui pose question en ce moment, qui a un comportement que nous, on ne qualifie pas de comportement à problème, parce que ça correspond à un protocole. Il me semble qu'on n'est pas tout à fait dans le cadre de ce protocole, mais qui est un animal qui est un peu plus audacieux que les autres, qui fait peut-être un peu plus de prédation également. Il a été lâché en 2016, effectivement, par les Catalans. Il était équipé d'un système de localisation. Avant que ce système ne s'arrête au bout de 2 ans, donc en 2018, le collier a été changé, et il n'a plus de collier depuis quelques mois maintenant. Et il semble qu'il y ait une velléité, effectivement, de l'équiper à nouveau. On ne comprend pas bien le sens de cette action.
Ça doit permettre aux éleveurs d'être prévenus par SMS de sa présence pour pouvoir les faroucher, hein, qu'on soit clair, en cas d'approche du troupeau.
Oui, mais vous savez, il a eu un collier pendant 4 ans et ça n'a pas changé grand-chose. Les moyens de protection sont des moyens qui sont préventif. C'est-à-dire, si vous les mettez en place dès le début de saison, vous n'avez pas de problème, et que vous soyez informé ou pas qu'un ours approche, finalement, n'a pas d'importance. Si par contre vous n'avez pas mis en place ces moyens, le fait de savoir qu'un ours approche n'y changera rien. Vous ne pourrez pas en pleine nuit aller faire ce que rassembler un troupeau, etc., ce qui est absolument impossible en pleine montagne. Alors après, il y a des mesures d'effarouchement, mais bon, de toute façon, il y aurait un ours équipé sur une soixantaine, c'est pas vraiment de nature à changer la donne. Il nous semble pas que ça soit une solution durable et une solution efficace.
Parce qu'il y a effectivement désormais 64 ours recensés dans les Pyrénées, et donc ces trois petits oursons qui ont fait leur apparition dans le Béarn, une première depuis 50 ans. Merci beaucoup Alain Rennes
président de l'association Pays de l'Ours Adette dans les Pyrénées. Merci d'avoir été notre invité ce matin.
Merci, bonne journée.
Europe 1. À 5h49 sur Europe 1, l'heure de mettre en lumière celles et ceux qui font bouger la France. Avec vous, Simon Rubin, de quoi on parle ce matin ?
Eh bien, on va parler d'Erasmus. Vous savez, c'est la fameuse année à l'étranger quand on est à la fac. Oui, bah, sauf que là, ça ne concerne pas les pays étrangers. On vous propose, quand vous êtes étudiant, d'aller dans les villes et villages ruraux.
Les Français ont des idées. On vous le montre dans une minute. À tout de suite.
Europe 1. Théo Manval.
L'essentiel à 6h10, c'est la communauté internationale qui dénonce un coup de force et appelle à la libération du président et du premier ministre au Mali. Tous deux ont été arrêtés hier soir par des militaires après l'annonce d'un gouvernement de transition et ont donc été écartés des officiers proches des putschistes qui avaient fait tomber le dernier président en août dernier. Après les célébrations parfois sans distance ni geste barrière pour le sacre du LOSC, l'agence régionale de santé appelle les supporters à réduire leurs contacts dans les prochains jours et à se faire tester dès le milieu de cette semaine. Au quatrième jour de la trêve au Proche-Orient, le chef de la diplomatie américaine attendu aujourd'hui sur place, Anthony Blinken, doit s'entretenir avec Benjamin Netanyahou et le président de l'autorité palestinienne.
Écoutez Le Monde Changer avec Théo Manval sur Europe 1.
La France bouge, les Français ont des idées, on vous le montre tous les jours sur Europe 1. Et ce matin, Simon Rubin, on part avec vous à la campagne avec cette initiative, donc un Erasmus rural.
Exactement, le principe est assez simple. De la même manière que les étudiants passent une année dans une fac étrangère au cours de leur cursus, et bien ici l'idée c'est de les envoyer à la campagne, revitaliser la ruralité et ainsi appuyer, renforcer les initiatives locales. Alors, c'est l'idée de Thibaut Renaudin, maire de Termes d'Armagnac en Occitanie, qui a lancé cet Erasmus rural avec un constat de départ qui est double. D'abord, les territoires ruraux, les villages ont des idées, des projets, mais parfois manque de bras pour les réaliser. Et puis l'autre constat, c'est qu'en France, on a une jeunesse qui a envie de s'engager. Et donc, pour concilier les deux, Thibaut Renaudin a créé Insight, une plateforme qui met en relation les jeunes du service civique et des artisans, paysans, porteurs de projets.
Effectivement, ça a l'air assez pratique. Est-ce que ça marche ?
Alors ça commence doucement mais sûrement. Chaque semaine sur la plateforme, plusieurs dizaines de relations se nouent. Certaines aboutissent. C'est le cas par exemple tout récemment de cet étudiant en école de commerce qui a choisi de prêter un coup de main à l'association Pimao de Perchède, c'est dans le Gers à côté de Mont-de-Marsan, et lui il y est allé pour aider à organiser une grande fête du village, une éco-fête, fête écologique. Toujours dans le Gers, hein, c'est une cinquantaine de villages qui reçoivent une centaine de jeunes du service civique, et des initiatives comme ça on en trouve partout en France, avec en gros trois types de missions: l'animation et le lien social, ça c'était le cas de notre étudiant en commerce, la culture et le patrimoine, ou encore l'environnement et le développement durable. Alors les jeunes reçoivent pour cette mission 580 € par mois. Ils sont logés chez l'habitant.
Ce qui peut être aussi des paysans qu'un Erasmus au-delà de nos frontières parfois.
Exactement. C'est une initiative d'ailleurs qu'Europe 1 avait encouragée en recevant son créateur dans la France Bouge l'an passé. Et je pense que c'était important de prendre des nouvelles, de voir un petit peu comment ça évoluait. C'est, vous le disiez, un bon moyen de découvrir son pays, ses régions, découvrir des métiers aussi parfois, de partir un peu hors de sa zone de confort. Et puis, c'est important parce que ça vient redynamiser des villages, des patrimoines qui ont besoin de bras, besoin d'idées nouvelles, d'énergie et de synergie.
Merci Simon Rubin. Vous partagez avec nous vos bonnes idées, vos initiatives. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Et la France bouge aussi sur le web. Martin Lange, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux ?
Eh bien, ce sont ces influenceurs approchés par une agence de communication pour critiquer le vaccin Pfizer. L'humoriste Samy Ouladito, 400 000 abonnés sur YouTube, l'interne en médecine, connu sous le nom de Sas dit médecin, suivi par plus de 80 000 personnes sur Twitter. Ou encore le vulgarisateur scientifique Léo Grasset, plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Tous racontent la même histoire. Une agence leur a proposé 2 000 € pour dire du mal du vaccin Pfizer, avec un argumentaire fourni clé en main. Je viens de recevoir sur Instagram une demande de partenariat pour décrédibiliser le vaccin Pfizer. Si vous voyez ce genre de poche chez les influenceurs, méfiez-vous, écrit Sas dit médecin sur Twitter. Attention, c'est une opération de com' renchérie, Léo Grasset.
C'est assez bien qu'il sensibilise en effet là-dessus. Est-ce qu'on sait qui se cache derrière cette campagne, Martin ?
Alors c'est difficile à dire pour l'instant. L'agence londonienne derrière ces messages se fait appeler FaZe, mais elle ne semble avoir aucune existence légale. L'adresse de l'agence est bidon, ils n'ont jamais eu de locaux là-bas, c'est un centre esthétique. Tous les employés ont des profils LinkedIn qui qui disparaissent, racontait Léo Grasset hier soir. Très vite, les regards se sont portés vers AstraZeneca, le laboratoire anglo-suédois, qui a forcément des bureaux à Londres. Et puis l'agence demandait formellement de pousser pour le sérum AstraZeneca. Mais le laboratoire a démenti hier soir. Autre coupable possible, la Russie. Détail troublant, hein, la campagne de soutien au vaccin Sputnik V sur les réseaux hein, reprend exactement les mêmes arguments que ceux de l'agence londonienne.
Tiens donc.
Mais pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que les Russes sont derrière tout ça. Heureusement, les internautes n'ont pas perdu leur humour pour détourner ce qu'on appelle déjà le face gate, à l'image du journaliste Louis de Vitter, hein, qui reprend un argument des antifax. Vacciné au Pfizer depuis, tout ce qui est métallique est instantanément attiré par mon épaule et l'élément qui est dedans. C'est extrêmement inconfortable.
Merci beaucoup Martin Lange. Merci Simon Rubin.
Merci.
À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
5h56 sur Europe 1, l'heure de s'intéresser à notre planète. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Et ce matin, vous nous parlez d'une entreprise qui récupère les déchets non dégradables avant qu'ils ne prennent le large dans l'océan.
Oui, l'idée est de récupérer les déchets là où ils sont le plus concentrés, c'est-à-dire juste avant qu'ils ne se retrouvent dans les grandes étendues d'eau où leur nettoyage est quasi impraticable. L'entreprise à la source de cette initiative s'appelle Polustock et depuis fin février, elle installe des filets de récupération dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, là où les petits écoulements d'eau et les ruisseaux rejoignent un bras d'eau plus important. L'idée de génie, c'est que ces filets sont faits sur mesure pour épouser la forme de chaque bouche d'égout. Ils viennent ainsi filtrer des déchets allant du mégot de cigarette aux bouteilles et sacs plastiques, tout en ayant des points d'attache solides pour supporter des charges de plusieurs centaines de kilos lorsqu'il y a de fortes pressions pendant les intempéries. Un camion vient ensuite vider les filets pour que les déchets rejoignent la filière de tri.
C'est une solution ingénieuse et très peu coûteuse et puis qui évite du coup que les déchets partent en mer.
C'est ça, on croit bien souvent à tort que tout ce qui part dans les égouts termine en station d'épuration, mais non. Avec le vent et la pluie, les déchets qui échappent aux poubelles sont acheminés vers le réseau fluvial avant de finir dans la mer. Avec ces filets de récupération, voilà une solution low-tech, à moindre coût, mais surtout avec un très gros impact pédagogique sur les élus, car elle oblige les décideurs à mieux comprendre les mécanismes de pollution et de dispersion des déchets dans la nature. L'entreprise compte récupérer 200 à 300 tonnes de déchets par an grâce à ces filets, dont 40% seront réellement recyclés. Son dirigeant m'a confié avoir un rêve secret qui n'est d'ailleurs pas très commun, c'est celui de fermer son entreprise, de mettre la clé sous la porte, car cela voudra dire que la gestion des déchets en amont sera devenue optimale et que plus rien du tout ne traînera dans les égouts et les caniveaux.
Vers quels autres modes de collecte est-ce qu'on peut se tourner pour mieux gérer ces déchets, Fanny ?
Il est vrai que la collecte reste indispensable, mais même là, des alternatives sont possibles. Le quartier parisien de Clichy-Batignolles a par exemple mis en place un réseau souterrain de collecte qui permet de largement diminuer le transport des poubelles par camion. Mais au-delà de l'optimisation de la collecte et du tri des déchets, l'urgence absolue reste évidemment la réduction de nos déchets vers laquelle les industries ont encore trop de mal à s'engager. Je rappelle seulement un chiffre ce matin, c'est encore 8 millions de tonnes de déchets par an qui finissent dans l'océan.
8 millions de tonnes chaque année. Merci beaucoup Fanny Agostini, à demain.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bienvenue à tous, il est presque 6h en ce mardi 25 mai.
Les terrasses sont animées, ça fait du bien.
C'est la vie d'avant.
Voilà. La vie d'avant, on retrouve nos libertés.
Ça nous manquait énormément, vivement que tout redevienne normal.
Et cette vie d'avant retrouvée, ce retour à la normale espéré, est-ce que ce sera pour cet été ? Les derniers chiffres épidémiques sont bons, les voyants plutôt au vert. Un été tranquille est même possible, selon l'Institut Pasteur. À quelques conditions quand même, on détaille ces projections et les enjeux des semaines à venir avec le professeur Arnaud Fontanet qui sera mon invité à 6h40. Jusqu'à 7h, la revue de presse internationale nous emmènera de Bangkok en Thaïlande à New York en passant par Varsovie. Et puis comme chaque matin, la partition d'Omblin Roche. Et la métamorphose du groupe Scorpion dans les années 80 entre rock dur et balade déchirante. Scorpion dans la partition d'Omblin Roche, ce sera à 6h25. Mais avant cela, un point sur la météo, dingo, hein, Laurent Cabrol.
Eh bien, le temps d'avance et le temps d'aujourd'hui, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un temps qui ne change pas beaucoup. En fait, si, il va changer un tout petit poil dans les deux jours qui viennent, et nous allons vraiment œuvrer pour que l'été revienne. Mais aujourd'hui, c'est encore une journée d'alternance, nuages, éclaircies, averses, pratiquement partout. Il y a des nuances que je vais définir dans une demi-heure, avec une poche d'éclaircies qui se définit sur la vallée de la Loire, l'Orléanais et la région parisienne, mais elle ne va pas tenir le choc. avec de nouvelles pluies qui arrivent par la Bretagne, avec du vent et du soleil en Méditerranée, mais dans l'ensemble, ce sera quand même encore très incertain avec des températures froides. Il fait entre 5 et 10 degrés en ce moment et dans la journée entre 16 et 23 degrés.
Merci Laurent Cabrol. Point complet dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Merci à vous de nous rejoindre sur Europe 1. On écoute Le Monde Changer.